Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est chanteuse lyrique, mezzo-soprano pour être plus précis. Sa voix, on l'entend depuis une dizaine d'années sur les plus grandes scènes du monde, dont celle de l'Opéra de Paris, bien sûr, où elle fait ses débuts en 2022, dans le rôle du chérubin des Noces de Figaro de Mozart, où elle incarnera dans les prochains jours Médée dans l'opéra éponyme de Marc-Antoine Charpentier. Elle chante donc du classique, du baroque, mais aussi de la chanson française. C'est tout l'éclectisme du répertoire de ce troisième album intitulé Idylle, en duo avec son compagnon, le luthier Thomas Dunfort.
Bonjour Léa Descendré.
Bonjour.
Bienvenue dans les Midi de Culture.
Bienvenue dans ce studio, Léa Desandré. Arrêtons-nous d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'actualités sur cet album et son titre, Idylle. On va parler de la chanteuse classique et lyrique que vous êtes, et qui s'adonne à la variété, à la chanson française. J'imagine d'abord que cette démarche-là, elle surprend peut-être autour de vous dans ce milieu de la musique classique.
En tout cas pour mes proches et les gens qui me connaissent, pas tant que ça. J'ai toujours fait mes projets d'enregistrement et de musique de chambre qui sont effectivement un peu parallèles à tout le monde de l'opéra, donc qui nous permettent de nous exprimer vraiment et de parler de ce que l'on aime, avec des thèmes ou des sujets ou des répertoires un peu différents, mais je me suis toujours inspirée de ce qui m'a fait du bien depuis que je suis petite. Et la chanson française en fait partie. J'ai grandi dans une famille où on écoutait beaucoup de musique des années 60, 80, 2000. Et voilà, avec Thomas Dunfort, on avait ce duo de musique baroque ensemble. Et au fil des spectacles, on s'est un peu permis, pendant les bis, d'ajouter des chansons françaises ou des airs d'opérette.
Quand le public est déjà conquis, en quelque sorte.
En fait, le bis, c'est le moment vraiment où on peut se faire plaisir et un peu sortir des sentiers battus. Et on avait souvent comme retour du public que ces derniers instants les enchantaient particulièrement. On s'est dit, pourquoi pas penser à quelque chose qui lie davantage tous ces répertoires et qui mette vraiment la musique au service d'une poésie, celle de la langue française, qui, depuis des centaines d'années, est ultra foisonnante. Et on s'est rendu compte que si vous prenez Michel Lambert ou Reynaldo Hahn, il y a beaucoup de similitudes. Notamment des fois dans des petits ornements qui sont ajoutés par le compositeur en clin d'œil à la musique du passé ou simplement harmoniquement pour peindre un mot, ils vont utiliser la même harmonie. Et que de toutes ces musiques, il en sort que le texte, c'est toujours à propos de l'amour, de la nature, des sentiments humains, de tout ce qu'on connaît depuis que l'être humain existe. Et voilà, on s'est fait plaisir en se disant que si on se faisait plaisir, ça devrait se ressentir et ça devrait faire plaisir aux auditeurs. Et on s'est retrouvé avec ce programme qui va d'Embruit, donc pré-baroque, jusqu'à Françoise Hardy et Barbara.
Sur la fougère.
Un extrait donc de cet album Idylle, Léa Desandré, que vous proposez avec donc au luth Thomas Dunford. On est auprès du feu, l'on fait l'amour, c'est Marc-Antoine Charpentier, ce compositeur du XVIIe siècle. Ça, c'est la partie là de la musique, comment on dit, musique du répertoire ancien, en quelque sorte. Qu'est-ce que cette musique-là, en particulier, elle veut dire pour vous?
C'est une musique pleine de délicatesse, de tendresse aussi, parce que je trouve que ces textes sont assez naïfs. Par rapport à la musique et à la vocalité, c'est une musique dans laquelle on va chercher des broderies, des ornements. On est quelque part toujours sous contrôle, mais pour arriver à ces ornements, il faut un grand lâcher-prise aussi. Donc c'est beaucoup de travail et après du plaisir. Mais je trouve que ça swing énormément, quoi. Il y a un côté hyper... Moi, ça me donne envie de danser et ça me fait penser... Hier, j'ai écouté le dernier album de Beyoncé et dans une de ses tracks, elle a mis un extrait de Caro Mio Ben, qui est une chanson de l'époque baroque, et elle intègre ça au milieu d'une chanson pop, et je me suis dit, bah ouais, voilà, c'est de la musique et c'est justement ce que nous, on a cherché à faire sur Idylle, ces croisements, et la musique n'a pas d'âge.
On a entendu le luth de Thomas Dunford. C'est d'abord peut-être ce répertoire-là qui est votre point commun de travail, puisque vous l'avez dit, c'est un programme que vous travaillez sur scène depuis de nombreuses années, et c'est au fur et à mesure que l'envie est venue de mélanger les genres et de ramener vers vous aussi des chansons plus contemporaines, en quelque sorte.
Oui, en fait, avec Thomas, on s'est rencontrés sur ce répertoire en 2015, dans les jardins de William Christie, et on faisait un programme d'air de cour. Donc c'était vraiment lui qui m'a introduit dans ce monde des airs de cour qui est assez particulier. Hein. C'est des chansons qu'on n'entendait plus beaucoup. C'est un répertoire qui tout de suite a été assez naturel. Et on s'est entendu dans le désir d'être l'un et l'autre, un instrument au service de l'autre. Se compléter dans le travail d'écoute aussi, ça a été extrêmement formateur pour moi, qui venait plus de l'opéra où on est sur une scène avec des instruments en fosse. Donc on a une distance, on est moins en osmose avec les instrumentistes. Et là, ça a été vraiment le travail, chercher une couleur commune, chercher à respirer ensemble, à anticiper le geste de l'autre, sans avoir à parler, en fait, à se compléter.
Et puis donc l'album intègre d'autres répertoires plus récents. Il y a La Belle Époque, avec notamment des morceaux d'Éric Satie, repris là aussi au luth simplement par Thomas Dunford, avec son instrument. Et puis dans les années 60 aussi, là vous nous ramenez à une musique sur laquelle on a certainement dansé peut-être, Françoise Hardy notamment.
Le premier premier bonheur du jour de Françoise Hardy, extrait de votre album Idylle, Léa Desandré, avec Thomas Dunford aux luttes.
Alors on l'a entendu, évidemment, avec le titre d'abord et avec les chansons qui ont été, les morceaux qui ont été choisis. C'est de l'amour dont vous parlez. Dans le livret de ce disque, vous mettez les deux définitions de ce qu'est l'idylle, ce petit poème à sujet pastoral et amoureux, et puis cette aventure amoureuse naïve et tendre. C'est véritablement ce thème-là qui vous a porté pour cet album-là, même si vous l'abordez avec des tons et des sentiments qui sont différents. Il y a des chansons, des interprétations aussi qui presque nous feraient sourire, nous feraient rire. Enfin, il y a beaucoup d'émotions et de sentiments.
C'est ça, l'amour, je pense. Et on souhaitait faire de ce disque un objet presque vertueux, en tout cas dans le message que l'on souhaitait porter. Et quoi de plus beau que l'amour, et c'est aussi ce qui nous lie avec Thomas, donc on avait envie de chercher des chansons qui racontent ce qu'est l'amour dans ses bons et ses moins bons moments. Et c'est un sujet qui est inépuisable aussi, donc qui nous a permis d'aller chercher plein de musiques très contrastées.
Mais c'est aussi, vous l'avez dit, un sujet inépuisable. Comment on fait comment on choisit de chanter telle ou telle chanson? C'est en fonction de ce qu'elle évoque, en fonction de ce qu'elle vous permet, vous, vocalement, de faire, ou dans l'union, justement, avec l'instrument, le luth?
C'est un mélange. Effectivement, déjà, il faut que les pièces permettent d'être jouées voix luth, parce que nous, on a pris la liberté d'interpréter n'importe quel type de répertoire, donc même si c'était des pièces orchestrales. Il y a le contraste. Pour que ce soit un récital ou un disque, on cherche à ce que le public voyage, ne soit pas ennuyé, qu'il ait le maximum d'émotions qui lui soient procurées. Et après, le plaisir. Alors, on avait une espèce de boîte foisonnante avec plein de répertoires. Et au fil du temps, on a un peu écrémé tout ça et on a fait des tables rondes avec nos proches en votant quelles sont vos chansons préférées, notamment pour le répertoire le plus récent, parce que là, on avait plein de...
Françoise Hardy, notamment.
Françoise Hardy, oui. On avait plein de sollicitations extérieures nous disant « Ah, s'il te plaît, faites cette chanson et cette chanson ». Et déjà, on s'est fixé sur Françoise Hardy, qui est une interprète qu'on admire énormément, pour ses qualités à la fois d'interprète, d'auteur-compositeur, qui se rapprochait aussi de toute la musique ancienne, où souvent ils écrivaient à la fois leurs textes et leur musique. Et oui, après, c'est du plaisir, quoi. Il faut qu'on kiffe ce qu'on fait pour pouvoir le partager.
Il y a une chanson que vous regrettez de ne pas avoir mise, finalement, de ne pas avoir chanté, où il y a eu vraiment un dilemme sur certains titres?
Non, au final, non.
Pas de dispute?
Même pas de dispute.
D'engueulade?
Non.
Vous avez parlé du plaisir. On sent qu'il y a un jeu aussi, parce que en écoutant ces deux extraits de l'album, on voit bien que vous n'avez pas la même voix. On va parler de votre voix en détail dans un instant, mais voilà, il y a beaucoup moins de vibrato sur Françoise Hardy, que le luth presque à la première écoute pourrait ressembler à de la guitare. Donc voilà, c'est aussi une forme de jeu, de défi formel que vous vous donnez.
C'est l'idée de la métamorphose, ouais, de se dire que à partir du moment où il y a l'émotion qui est là, on arrivera à trouver le chemin. Et c'était particulièrement intéressant pendant l'enregistrement de voir comment on pouvait utiliser le micro comme un objet par rapport à la chanson française. Parce que c'est vrai que dans le répertoire plus lyrique, on a une prise de son qui est faite pour cet instrument-là, donc des aigus qui vont être un peu plus puissants, des graves moins poitrinés. Et là, on peut vraiment jouer avec le micro, donc ça nous a pris un peu de temps pour trouver cette balance-là, où c'est quasiment du texte parlé, en fait, où aussi ajouter de l'air vient ajouter une certaine couleur. Si la voix est un peu sale, ça peut aussi être intéressant.
Donc, qu'est-ce que c'est une voix sale?
Ben, je ne sais pas si tout d'un coup vous avez quelque chose...
Un
chat dans la gorge, où ça peut apporter un côté hyper sensuel ou rocker, et si ça arrive sur le mot qu'il faut, bah, on le garde, quoi. Justement, c'est une couleur en plus.
Mais ça peut se répéter?
Non, ça vient spontanément pendant l'enregistrement. Mais on a eu la chance d'avoir une longue période d'enregistrement où on avait la chaux de fond pour nous pendant toute cette semaine-là. Et notre équipe d'ingé son et de directeur artistique à disposition aussi. Donc, ils ouvraient les micros et puis nous, on recommençait. Il y a une forme de transe aussi qui s'opère dans ces moments-là où, comme le public n'est pas là pour nous porter et pour nous inspirer, bah, il faut que nous, on aille chercher dans notre imaginaire. Et presque en fermant les yeux, c'est plus facile aussi de voyager et de se laisser aller.
Comment on chante ? Est-ce qu'on chante différemment ce premier extrait de Marc-Antoine Charpentier qu'on a entendu tout à l'heure et du François Hardy ? Alors j'ai utilisé le vibrato mot technique comme si je savais ce que ça voulait dire. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur justement cette technique, sur cette façon de chanter ? Est-ce que pour vous c'est un effort différent ?
C'est plutôt la manière de peindre les mots que la technique. Moi je suis partisane de la technique unique entre guillemets, je n'ai pas deux techniques. Après c'est en mettant un peu plus de soutien, en envoyant un peu plus d'air, en poitrinant davantage. Donc poitriner c'est la voix parlée en fait, et après il y a la voix de tête qui est la voix qu'on utilise dans le lyrique. Décider que oui, tout d'un coup le mot on va vouloir qu'il soit pur, donc on va ne pas mettre de vibrato dessus, ou si on parle, si... c'est aussi très similaire au répertoire que je fais actuellement de Charpentier. Si vous dites trembler, ben vous avez envie d'entendre dans la voix quelque chose qui va trembler. Donc c'est vraiment peindre tous les mots en ayant toujours évidemment l'idée globale de la chanson, c'est pas une question de technique, c'est plutôt la technique est là pour nous permettre d'avoir le maximum de couleurs possibles pour pouvoir peindre ces mots.
Alors je disais à Léa Desandry que vous vous amusiez, qu'il y avait une forme de jeu aussi dans ce répertoire. D'abord lors de ces concerts où effectivement vous surprenez aussi votre public avec ces reprises de chansons plus contemporaines lors de ces bis, mais aussi dans les albums précédents puisque vous allez chercher des compositeurs, des œuvres qui sont moins connues. Vous avez cette envie de rendre accessible peut-être ou de faire venir à vous un public plus large, plus jeune.
Oui, en fait, tous ces programmes ne sont pas faits dans l'idée de se dire on va faire un concept pour que ce soit un concept. C'est toujours porté par une forme de passion. Si je pense notamment à mon premier projet de disque qui était les Amazones, ça a vraiment été un thème, une fois plongé dedans, qui m'a passionné du début à la fin et qui m'a donné envie d'aller dans le détail au maximum, surtout sur les recherches, que ce soit au niveau des couleurs des instruments, des collègues aussi dont je m'entourais, de la variété du programme. Et je trouvais ça sublime d'avoir trouvé cette musique incroyable. C'est Yanis François, un musicologue qui me connaît par cœur parce qu'on a chanté ensemble. Donc, en plus, j'avais le luxe d'avoir quelqu'un qui connaissait mon instrument, donc qui pouvait m'apporter de la musique qui allait fonctionner. Et de se dire que sur ce programme, je crois qu'il y a une vingtaine de pièces qui n'avaient pas été jouées depuis des années. Et on n'a pas décidé de les jouer parce qu'elles n'avaient jamais été jouées. C'est vraiment parce qu'elles nous plaisaient, parce que c'était des pièces, il y en avait qui étaient extrêmement émouvantes, d'autres très rock'n'roll et qui méritaient d'être ressorties et rejouées à nouveau. Et c'est très beau maintenant de voir parce que régulièrement, on a de jeunes chanteurs qui nous écrivent et qui nous disent « Voilà, je passe mon master ou je vais faire un concert. J'adore cette pièce. Comment me procurer la partition ?» Et donc, on espère que ce sont des pièces qui, pas pour toutes, mais pour certaines, pourront réentrer dans le répertoire par un chemin, quoi. C'est chouette.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
J'ai compris qu'une bonne partie de la musique est contenue dans ce qu'on dit. Surtout dans le baroque, avec le récitatif chanté. Et je crois que c'est quelque chose qu'on emporte partout avec soi. Parce que la façon de dire un mot peut faire beaucoup musicalement.
Et donc, je pars
du présupposé que la musique se fait surtout en écoutant. Et donc, ce sont deux choses qui doivent vraiment aller de pair. La musique est toujours accompagnée par la parole et vice-versa. Et quelquefois, la parole est la patronne.
La voix de la contralto Sarah Mingardo à la télévision italienne en 2009.
J'ose pas vous demander si vous êtes d'accord avec elle, Léa Desandré. Sarah Mingardo, qui a été votre mentor, quand elle dit la parole est la patronne, vous acquiescez ?
Complètement, et en fait, je n'avais jamais entendu ça, cet enregistrement. Et ça me fait réaliser que c'est la personne qui m'a donné goût au texte. J'ai eu la chance vraiment immensissime de pouvoir étudier avec elle à l'ancienne, parce qu'en fait je l'ai rencontrée à la fin d'un concert Salle Gaveau et j'avais 18 ans et je lui ai demandé « Est-ce que je peux venir étudier avec vous à Rome ?» Elle m'a dit « Oh, j'ai plus de place dans ma classe, Bon, dommage, mais j'ai insisté, j'ai quand même envoyé un dossier. Et je me souviens d'un mercredi matin, elle m'avait envoyé un mail en me disant bah, « Viens étudier chez moi, je vais trouver de la place ». Et finalement, ça ne s'est pas fait à Rome, mais à Venise. Et là, j'ai passé 2 années où j'avais un professeur qui me donnait des leçons à la fois de technique, de musique, de vie, de conseils sur ce que c'est que d'être musicien, les sacrifices, la beauté aussi de ce métier. Et tout ça, gracieusement, j'avais des leçons tous les jours et qui me disaient « Je suis là pour toi maintenant ». Et quand plus tard, ce sera toi qui seras sur scène, c'est toi qui m'inviteras, c'est toi qui... On ira manger et on célébrera tout ça. Et voilà, je trouve que, de toute façon, les musiciens extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer, avec lesquels j'ai pu travailler, se sont avérés être des êtres humains aussi, avec un univers très particulier, très riche, et qui, moi, me touchait. Et Sarah, elle m'a donné ce goût du risque aussi. Elle me disait souvent, on n'est pas là pour faire du propre. On est là pour transmettre une émotion, en tout cas on est là pour être au service d'un texte et d'une musique et arriver à véhiculer pleinement ce qui a été écrit par le compositeur et le librettiste pour le public. Donc on est comme une forme de canal et l'harmonie et le texte sont nos outils. Et elle insistait tout le temps, lorsque je lui amenais un air avec un petit bout de récitatif avant. Bon, moi, le petit bout de récitatif, on le faisait vite fait, et après, on passait à l'air. En fait, avec elle, on passait plus de temps sur le récitatif.
Expliquez-nous, le récitatif, c'est quoi?
En fait, c'est le texte un peu moins chanté, avant l'air. L'air, c'est le moment où on développe un sentiment. Donc, on va s'arrêter sur, tout d'un coup, je suis en souffrance, et on va dire ça pendant 6 minutes, grosso modo. Et dans le récitatif, juste avant, on va expliquer pourquoi on est en souffrance, qui nous a fait quoi, voilà, c'est le
contexte, en quelque sorte, de la situation, de la scène. Et ensuite, vous vous épanchez, en quelque sorte, avec l'air.
Exactement. Et en fait, avec elle nous faisait prendre conscience du poids de chaque mot. Un mot qui peut être un mot de transition, c'est peut-être le mot finalement le plus important qu'un verbe ou un adjectif. Les silences aussi, la qualité de pourquoi est-ce que là, on a un silence plus long que là. C'est probablement rhétorique, c'est voulu par le compositeur, se servir de tout ça. Et ouais, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris.
Est-ce que vous aviez des facilités, ou comment dire, presque des tics sur lesquels vous vous reposiez et qu'elle vous a dit d'abandonner à tout prix?
Des tics, je ne crois pas. Elle est plutôt allée à développer les facilités que j'avais. Et à m'aider à combler certaines lacunes, notamment la partie plus grave de ma voix, c'était quelque chose que j'avais moins naturellement. Ce qui était très naturel dans ma voix, c'était aller vite et monter aigu et redescendre. Et là, elle parle dans l'enregistrement de l'écoute. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé avec Thomas ces dernières années, en faisant de la musique ensemble, en étant un instrument. Et ces derniers temps, j'ai beaucoup pensé à la quantité de musique que j'ai écoutée en étant étudiante, ou bien pendant les leçons de Sarah, parce qu'en fait j'avais mon cours, et j'allais écouter tous ses cours toute la journée. Et j'ai pensé à l'impact de l'écoute et de l'oreille, et notamment cette facilité aussi dans les aigus, où à l'époque j'écoutais quotidiennement, mais plus que quotidiennement, je ne sais pas s'il y a un mot pour dire toutes les heures, Nathalie Dessay, qui a, elle, ce naturel dans tous ses aigus. Et c'est comme si quelque part mon oreille avait compris physiquement ce qui se passait dans le corps de l'interprète pour aller chercher cette facilité. Enfin, c'est quelque chose que je n'explique pas, mais j'en parle beaucoup avec mes collègues en ce moment, de la force de l'écoute. Et dans la musique, ça passe par là. C'est comme ça qu'on se connecte. Je crois que c'est un outil qui mériterait à être encore plus développé dans les conservatoires, ou presque obliger les étudiants à aller écouter les leçons des autres pour comprendre la transformation du son, pour comprendre quand l'émission n'est pas bonne, comment le professeur arrive à régler l'émission, et pas forcément le comprendre par nous en produisant le son, mais par l'oreille.
Donc vous écoutez beaucoup plus de graves maintenant, c'est ça ?
J'écoute... maintenant, mes graves vont quand même beaucoup mieux grâce à ça, entre autres, mais j'écoute de tout. J'écoute... Non, pas forcément, mais plus de voix féminines, effectivement, parce que les voix féminines, je me retrouve plus que l'instrument masculin, où même si on a des octaves qui sont similaires, j'arrive pas à comprendre le lien entre nos deux instruments.
Justement, vous le dites ce mot et vous le répétez, vous parlez de votre voix comme d'un instrument, Léa Desandré. Comment est-ce qu'on s'habitue à cet instrument? Il y a quelque chose de paradoxal, parce que on est un instrument parmi les autres instruments, ça vous l'avez dit, et à l'opéra notamment parmi l'orchestre qui est tout près dans la fosse. Comment est-ce qu'on arrive justement à se positionner au bon endroit?
C'est une question intéressante. Je crois que l'idée d'instrument vient de mon premier contact avec la musique, qui était la danse, en fait, où je vois aussi vraiment le corps comme un instrument. Et je crois que si on se dissocie et si on se pense chanteur et non plus instrumentiste, on perd une connexion, on perd un contact indicible qui nous permet, encore une fois, de transmettre des émotions. Et si je me considère différente du reste du groupe, je serai déconnectée d'eux quelque part et peut-être mon son se fondra moins dans celui des autres. Après, il y a des contextes très différents. Lorsqu'on est à l'opéra, encore une fois, sur une scène avec les instruments en fosse, il faut se considérer comme un instrument plus soliste, en tout cas de mon point de vue. C'est nous qui portons le texte, eux portent l'harmonie, portent la texture, et sans eux, on n'existe pas, évidemment. Mais le récit avance et se passe sur scène aussi, il y a la mise en scène. Lorsqu'on est en projet chambriste, là, je me considère vraiment à part égale avec les autres, aussi parce que les projets chambristes que je fais souvent, c'est à un par partie. Donc c'est un orchestre dans lequel il y a un violon 1, un violon 2, un alto, là où dans un opéra, les instruments sont doublés. Et donc, dans un orchestre de chambre, chaque instrument a le même poids, quelque part. Donc on est plus à égalité et c'est plus facile de se fondre dans cette masse-là.
Vous nous avez parlé de l'importance du corps. Alors, si je résume votre jeunesse, je vais le faire avec mes mots, mais vous avez été, dès votre plus jeune âge, fasciné par le corps humain. Je crois que vous vouliez être chirurgienne cardiaque. Ensuite, par le sport, vous avez pratiqué le tennis, le golf, le volley, le hand et la danse classique pendant de nombreuses années. C'est cette danse classique aussi qui vous a apporté cette discipline et qui vous a ouvert ensuite les portes du chant lyrique.
Oui, exactement, c'est un très bon résumé. J'arrive toujours pas à comprendre cette fascination que j'ai pour le corps, mais c'est vrai que dès que je découvre une nouvelle discipline, là, il y a quelque temps, j'ai découvert le pilates sur machine. Bon, en soi, c'est des étirements, tout ça, mais d'arriver à comprendre quel muscle est sollicité. J'ai aussi découvert les fascias, je sais pas comment on dit fascia. C'est les tissus entre les muscles, les os.
Fascia, on me dit.
Fascia. Mmh. C'est fascinant, en fait. Et je trouve que, en tant que chanteuse d'opéra, j'ai énormément de chance d'avoir ce souci d'arriver à comprendre davantage mon corps pour pouvoir être encore plus au service de mon instrument et pouvoir m'en servir mieux. Donc, dès qu'il y a une nouvelle discipline, je saute sur l'occasion. Là, dans la production que je fais actuellement, il y a de la danse. Donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion aussi. Et en fait, entrer dans son corps par la danse, ça permet de comprendre davantage sa voix. Parce que notre instrument vocal, c'est la soufflerie, c'est arriver à faire entrer en résonance les pommettes, tous les os, toutes les cavités osseuses. Et en fait, la danse nous fait entrer dans le corps et nous donne un ancrage et un enracinement qui nous donne de la force, qui nous permet après d'avoir accès à ces espaces-là de manière plus libre.
Se un amor
Les noces de Figaro de Mozart, où l'on vous entend chanter, vous, Léa Desandré.
C'est un rôle important pour vous. C'est le rôle du chérubin que vous avez interprété, incarné, faut le dire, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rôle-là ?
Oh bah, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour ce rôle. C'est le premier rôle de Mozart que j'ai chanté en étude. C'est d'ailleurs, lorsqu'on m'a proposé le rôle, je me suis rendu compte que je le connaissais par cœur. C'est justement les récitatifs avec lesquels on a le plus, sur lesquels on a le plus travaillé, avec Sarah notamment. C'est un rôle qui m'a permis de faire mes débuts sur des scènes qui sont devenues très importantes pour moi. L'Opéra de Paris.
En 2022.
L'Opéra de Zurich. De revenir au Festival d'Aix-en-Provence aussi. L'Opéra de le Lycée ou à Barcelone. J'ai fait 7 productions en 2 ans de Chérubin. Donc en fait, je n'ai côtoyé que Chérubin pendant 2 ans. Dans 7 productions différentes. Donc 7 castings différents, 7 mises en scène différentes, 7 chefs différents.
Et 7 chérubins différents, même si c'était vous derrière ?
Exactement. Et c'est ça qui était fascinant. En fait, c'est une expérience que je souhaite à tous les chanteurs, parce que ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, ça nous fait aller chercher en permanence de nouvelles histoires à se raconter. C'est aussi extrêmement intéressant de voir comme un metteur en scène ou un chef peut avoir une vision totalement différente l'un de l'autre. J'ai fait majoritairement des mises en scène assez modernes, mais qui ne se ressemblaient pas. J'avais un chérubin Justin Bieber, un chérubin versaillais, un chérubin un peu obsédé années 90. Voilà, c'était là le dernier en date était à Salzbourg, avec un chérubin années 2024, très androgyne. Je ne savais même pas moi-même si c'était un homme ou une femme. En fait, c'est un personnage qui tombe juste aussi dans mon instrument, c'est-à-dire que je me sens très bien dans toute l'écriture vocale. Et après, qui m'a aussi beaucoup appris sur moi, ce que c'est que d'être un jeune homme, enfin, toutes les questions qu'on se pose quand on découvre la vie, quand on découvre l'amour, quand on découvre les peines, quand on découvre la trahison. C'est un personnage qui m'a apporté beaucoup de douceur, qui m'a fait voir aussi le monde de manière encore plus belle. J'ai l'impression que depuis que j'ai chanté Chérubin, j'apprécie davantage toutes les petites choses du quotidien. Je vais m'arrêter sur des détails, regarder le ciel, regarder les immeubles, contempler la nature. C'est vraiment un personnage, ouais, qui m'a apporté ce goût de la contemplation que j'avais déjà, mais que lui a développé. Ouais, et voilà, la soirée de première à l'Opéra de Paris en 2022, c'était un moment très spécial pour moi, parce que c'était ce rôle que j'avais eu la chance déjà d'interpréter, dans lequel je me sentais à l'aise, sur une scène que je ne connaissais pas, parce que j'ai chanté enfant à l'Opéra de Paris, mais que à Bastille. Donc en tant que Parisienne, en plus, chanter à l'Opéra Garnier, c'était une espèce de rêve absolu. Et Chérubin m'a permis de réaliser beaucoup de mes rêves. Ouais, en fait, c'est ça.
Et vous allez revenir à l'Opéra Garnier dès le 10 avril prochain, et pendant un mois, vous allez incarner cette fois-ci Médée, dans le Médée de Marc-Antoine Charpentier, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, le compositeur. Passer de ce rôle de chérubin à un autre rôle, parce qu'il y a aussi quelque chose de très théâtral, évidemment, dans votre métier, Léa Desandré. C'est difficile, vous voyez ça comme une bascule, comme franchir un cap, d'incarner cette reine beaucoup plus dramatique, beaucoup plus... Je ne sais pas comment vous la qualifiez d'ailleurs, cette Médée.
Oui, c'est ce que beaucoup de personnes m'ont dit avant. Ah, comment tu vas faire ? Et c'est vrai que du coup, l'angoisse quelque part grandissait de me dire, je vais passer d'un confort de chanter le même rôle pendant 2 ans, chez Rubin, dans lequel j'étais vraiment comme dans mes baskets, quoi. C'était ma seconde peau, à ce nouveau grand, grand personnage. Et en fait, entre-temps, j'ai eu la chance d'avoir une saison très bien construite, c'est-à-dire qu'après chez Rubin, donc au lieu de passer de l'ado à la femme mûre, quelque part, j'ai fait mes débuts en Ariodante et Idamante, donc qui sont quelque part l'évolution naturelle d'un chérubin, donc de jeunes hommes qui ont plus de responsabilités, qui sont des guerriers, qui sont rois, donc qui ont toute cette forme de stature qu'a Médée aussi. J'avais à chercher des couleurs plus dramatiques, et Médée, là, aujourd'hui, Je vis quelque part un rêve éveillé. Ça fait plusieurs semaines que l'on travaille. Et en fait, elle était déjà là, quelque part. C'est vraiment une évolution naturelle. Et ça me fait du bien aussi de revenir à un rôle de femme. Parce que j'ai côtoyé beaucoup d'hommes ces derniers temps et c'est fascinant, mais c'est aussi très intéressant de revenir à quelque chose de plus naturel. Et c'est une femme qui, oui, est vue comme monstrueuse, colérique, magicienne, dans le sens noir du terme. Et en fait, plus le temps passe, je m'imbibe aussi de plein de récits, que ce soit des récits historiquement informés ou plus romancés. Et en fait, en allant chercher des petits détails un peu partout, j'arrive à en construire un personnage qui est très humain. Et avec David Maïvicar, le metteur en scène, on cherche vraiment à créer une Médée qui est en fait celle qui est écrite dans la partition et qui a été écrite par Thomas Corneille, qui l'a peint plus douce que les autres. Une Médée, on veut que le public, en sortant de cette salle, se dise « mais en fait, je suis Médée ».
Et ce sera à découvrir à partir du 10 avril prochain jusqu'au 11 mai à l'Opéra National de Paris au Palais Garnier avec, vous l'avez dit, David Maïvicar pour la mise en scène et William Christie pour la direction musicale. Ça, c'est pour vous retrouver sur scène. On vous retrouvera aussi sur scène. On mettra les dates sur le site de France Culture avec votre disque, Idylle, que vous signez avec Thomas Dunford au Lutte, disponible chez Erato Warner Classic.
Et pour finir, Léa Desandré, nous avons choisi deux chansons interprétées par deux de vos modèles, Nathalie Dessay ou Cécilia Bartoli. Bartoli, laquelle des deux souhaitez-vous écouter ?
Je ne veux pas.
C'est dur de choisir.
Je vous laisse choisir.
Et c'est donc Cécilia Bartoli que j'interromps de la sorte. Merci beaucoup Léa Desandré d'être venue dans les Midi de Culture. Une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Salle. L'émission est réalisée ce midi par Daphné Leblanc et à la prise de son, c'est Dali Yaha. Merci Géraldine, à demain.
À demain Nicolas.